Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoudia, bonjour. Combat entre militaires et rebelles jeudi dans l'ouest du Tchad et arrivée à N'Djamena d'une mission d'enquête de l'Union africaine sur la situation politique et sécuritaire et les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. L'armée tchadienne assure avoir mis hors d'état de nuire une colonne de rebelles et a annoncé le crash d'un hélicoptère en raison d'une panne technique selon la junte au pouvoir, alors que les rebelles du FACT disent avoir détruit l'hélicoptère. Nous reviendrons avec Abdourahmane Dia sur les combats à l'ouest et aussi sur le sort de plus de 650 personnes interpellées mardi lors des récentes manifestations contre la junte. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu jeudi sa première réunion consacrée au risque d'une dispersion de milliers de mercenaires présents en Libye dans les pays de la région, illustrée par les événements au Tchad qui ont conduit à la mort de son président Idriss Déby Itno. M. Déby était monté officiellement au front après une offensive de rebelles tchadiens venus de Libye. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a promis un partenariat fort entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo sur les questions économiques, de sécurité ou d'environnement jeudi, lors d'une visite à Kinshasa. Ce partenariat fort, incluant également l'Union africaine, doit porter sur le plan économique, en investissant dans les infrastructures, le secteur privé, la création d'emplois et en soutien de l'éducation, la santé et la sécurité, a détaillé M. Michel sur Twitter. Il a remis à la RDC deux bateaux pour améliorer la navigation sur le fleuve Congo où de nombreuses embarcations fragiles font naufrage chaque année. D'autre part, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a assuré jeudi qu'il préparait des mesures radicales contre la violence des groupes armés dans l'est du pays, deux jours après avoir demandé l'aide de la France. Michel Joseph nous en parlera. Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, n'a pas donné d'ordre aux combattants rebelles du FLN qui sont accusés d'attaques sur des civils en 2018, selon un ancien commandant de ces hommes, Herman Sengimana. Son témoignage contredit celui de Calixte Nasibimana, un autre des 20 co-accusé qui avait déclaré à l'ouverture du procès que tous les ordres venaient de M. Rusesabagina. Son procès s'est ouvert mai-février à Kigali avec 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Quelque 99 migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été secourus jeudi au large de la Libye après que leur bateau a commencé à couler, a-t-on appris auprès des gardes-côtes libyens. Leur bateau pneumatique était en train de couler en pleine mer, a-t-on ajouté. Le plus grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie de COVID-19 a tourné vendredi au cauchemar lorsqu'une bousculade géante a fait au moins 44 morts lors d'un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays. Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'un report des premières élections en 15 ans dans les territoires palestiniens tant que la tenue du scrutin n'était pas garantie à Jérusalem-Est, portion de la ville sainte annexée par Israël. L'Iran s'est félicité jeudi du changement de ton de l'Arabie saoudite après des déclarations jugées conciliantes du prince héritier saoudien et a souhaité un nouveau chapitre dans les relations entre les deux grands rivaux régionaux. Les premières cargaisons d'aide médicale américaine sont arrivées vendredi en Inde, qui est actuellement confrontée à une flambée catastrophique des cas de COVID-19. Un avion militaire qui transportait plus de 400 bouteilles d'oxygène, de l'équipement pour les hôpitaux ainsi qu'un million de tests de dépistage du coronavirus a atterri à l'aéroport international de la capitale, New Delhi. La suite de nos informations. Au Tchad, plus de 650 personnes interpellées mardi lors des manifestations contre la junte au pouvoir sont actuellement auditionnées par la justice et des combats sont toujours signalés dans l'ouest du pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le procureur Youssouf Tom, une majeure partie des personnes arrêtées ont déjà été entendues et beaucoup ont été relâchées. Au tribunal de grande instance de N'Djamena, des dizaines de personnes sont arrivées hier à bord de véhicules en provenance des commissariats des différents arrondissements de la capitale. Depuis mercredi, ils sont présentés tour à tour à la justice d'après l'un de leurs avocats. Les manifestations, interdites mardi par les autorités militaires, ont fait au moins 6 morts. Par ailleurs, des combats ont opposé hier encore des militaires à des rebelles dans la région du Kanem, a déclaré le général Azem Belmandoa Agona, porte-parole du Conseil militaire de transition. C'est dans cette région désertique dans l'ouest que le président Idriss Déby a été blessé alors qu'il était au front. Depuis son décès, son fils Mahamat Idriss Déby a pris la tête de la junte et dimanche, le CMT a annoncé qu'il n'y aurait ni médiation ni négociation avec les rebelles du FACT et a demandé à l'allié nigérien de l'aider pour capturer Mahamat Mahdi Ali, chef des rebelles tchadiens.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a assuré hier qu'il préparait des mesures radicales contre les violences dans l'est de son pays, 2 jours après avoir demandé l'aide de la France. Le point avec Michel Joseph.
Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces pour réduire de manière définitive cette crise de l'Est, a déclaré hier le président Félix Tshisekedi sans plus de précision lors d'une conférence de presse avec le président du Conseil européen, Charles Michel, qu'il a reçu à Kinshasa. Mardi, à Paris, il avait déjà demandé le soutien de la France pour éradiquer les forces démocratiques alliées, un groupe armé d'obédience islamiste dans la région de Beni. Les ADF, à l'origine des rebelles musulmans ougandais, sont accusés du massacre de plus de 1000 civils et de nombreux enlèvements depuis novembre 2019. Le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a évoqué la proclamation de l'état d'urgence sécuritaire dans l'Est lors de son discours d'investiture devant les parlementaires. À Beni, de jeunes lycéens campent depuis une semaine devant la mairie pour demander le départ de la MONUSCO, la mission de l'ONU, accusée de ne rien faire face aux exactions des milices et groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC.
Le point sur la pandémie de COVID-19 dans le monde. Selon l'université Johns Hopkins, l'on a déjà enregistré près de 150 millions de cas et plus de 3 millions de morts. Malgré les campagnes de vaccination qui s'intensifient, certains pays enregistrent des chiffres records de malades et de décès. Précision de Mohamed Humfa.
La situation s'aggrave en Inde qui a enregistré jeudi 3645 morts, un nouveau record pour ce pays. Le Brésil dépasse les 400 000 morts pour devenir le deuxième pays le plus endeuillé au monde. La vaccination de masse s'intensifie partout. En Allemagne, 1,1 million de doses ont été administrées mercredi. Seule la Chine, les États-Unis et l'Inde ont fait mieux en 24 heures. En Europe, la pandémie semble avoir ralenti. Les Pays-Bas ont rouvert les terrasses des cafés mercredi et supprimé le couvre-feu. La France rouvrira ses commerces, cinémas et musées le 19 mai. Le couvre-feu sera alors décalé à 21 heures. Le maire de New York, Bill de Blasio, s'est fixé pour but de rouvrir complètement sa ville au 1er juillet. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé met en garde l'Europe sur l'assouplissement des restrictions. La crise sanitaire majeure que traverse actuellement l'Inde peut avoir son origine dans le variant dit indien du coronavirus, mais aussi dans certaines conduites comme le non-respect des restrictions sanitaires, a expliqué l'OMS.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Après une excellente année 2020, la demande mondiale de l'or, valeur refuge, est en baisse de 23% pour le premier trimestre 2021, selon le dernier rapport du World Gold Council. Avec le début de la reprise économique mondiale, les investisseurs ont abandonné leur position sur l'or, provoquant une baisse des prix. A l'inverse, les institutions comme les banques centrales ont acheté 95,5 tonnes d'or au premier trimestre, soit une hausse de 20%. Les particuliers aussi ont maintenu leur intérêt en achetant 36% de lingots et de pièces d'or en plus au premier trimestre. Le négociant ivoirien Kineden Commodities vient de réaliser sa première levée de fonds sur les marchés financiers internationaux. Kineden a levé près de 3 milliards de francs CFA auprès d'EBI, la filiale internationale du groupe EcoBank. Cette levée de fonds intervient dans un contexte économique marqué par la pandémie de coronavirus et veut consolider la campagne cacaoyère 2020-2021. Le cours du cuivre, baromètre de l'économie mondiale, a franchi hier la barre des 10 000 dollars la tonne pour la première fois depuis 10 ans. Ce bon résultat est porté par la forte demande de la Chine qui achète la moitié de la production mondiale. Le cours du métal rouge a connu un gain de plus de 25% depuis le 1er janvier. Selon les experts, le cuivre est principalement soutenu par la faiblesse du dollar, propre à encourager les achats de métaux libellés en devises américaines pour les investisseurs munis d'autres monnaies.
Merci Claire. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. 11 au départ, ils ne sont plus que 3 en lice pour le prix Marc Vivien Foué, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison. Il s'agit du milieu offensif congolais de Lens, Gaël Kakuta, de l'attaquant algérien de Montpellier, Indi Delors, et de l'attaquant zimbabwéen de Lyon, Tino Kadawere. En termes de chiffres, durant leur saison toujours en cours, Gaël Kakuta a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, pendant que Tino Kadawere est à 10 buts et 3 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 également. Indi Delors lui compte 12 buts et 10 passes décisives en 26 matchs dans le championnat français de première division. À match aller de la demi-finale de la Ligue Europa hier, le roi de la compétition Unai Emery a pris sa revanche sur son ancien club. Villarreal du Nigérian Samuel Chukwueze a pris une petite option sur la finale en battant à domicile Arsenal 2 buts à 1. Emery, déjà triple vainqueur de la Ligue Europa avec Séville entre 2014 et 2016, a fait un petit pas vers une cinquième finale de Ligue Europa grâce aux deux buts de Manu Trigueros et du capitaine Raoul Albiol avant le match retour le 6 mai à Londres. En face, l'international ivoirien Nicolas Pepe a maintenu l'espoir pour les Gunners en transformant un pénalty qu'il a lui-même provoqué à la 73e. Dans l'autre demi-finale aller, avec un doublé et deux passes décisives chacun, Edinson Cavani et Bruno Fernandes ont offert à Manchester United une victoire très confortable 6-2 contre la Roma. Avant le match retour au stade Olympico dans une semaine, l'Ivoirien Eric Bailly et ses coéquipiers ont pris une belle option sur la finale le 26 mai en Pologne. Et puis une petite statistique à propos pour retrouver trace de 6 buts inscrits par United en Coupe d'Europe. Il faut remonter à un 7-2 infligé en 2007 à un certain Roma. Et pour finir, lueur d'espoir pour les supporters en Italie, la finale de la Coupe nationale entre l'Atalanta Bergame et la Juventus prévue le mois prochain à Reggio Emilia pourra se disputer devant des spectateurs mais avec une jauge limitée à 20% du stade. L'annonce a été faite par le sous-secrétaire d'État à la Santé, Andrea Costa, compte tenu des capacités d'accueil du stade, propriété du club de Sassuolo. Autour de 4700 supporters pourront assister à ce match le 19 mai. Aucun supporter n'est actuellement autorisé dans les stades de football en Italie, mais le pays s'est engagé à ce que le stade olympique de Rome soit ouvert aux spectateurs à hauteur de 25% de ses capacités à compter du 11 juillet pour les 4 rencontres de l'Euro 2020 qui l'accueillent cet été.
Merci, Yacouba. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Sebudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La crise politique au Tchad, née de la mise en place d'un conseil militaire de transition et le conflit avec les rebelles du FACT dans le nord, pourrait avoir un impact sur l'engagement militaire de N'Djamena dans le Sahel. C'est l'avis d'Ahmedou Oud Abdallah, président du centre 4S, qui vient de publier un article sur le sujet. Joint à Bruxelles par Abdelrahman Dia, Ahmedou Oud Abdallah, ancien diplomate onusien.
Et son régime, son armée sont connus pour être très présents sur le terrain dans la lutte contre le Sahel, particulièrement dans le cadre du G5 Sahel. Il a été présent dès le début, 2013-14, dans le nord du Mali. Ses troupes sont toujours actives dans la zone la plus chaude du Sahel, c'est-à-dire la frontière commune Niger-Mali-Burkina. Ses troupes sont actives contre Boko Haram, ou étaient actives contre Boko Haram autour du lac Tchad. Donc sa mort pose des problèmes parce que le même effort, vraisemblablement, n'était plus être alloué à cette lutte. La priorité, en cette période de transition, ne peut pas s'éloigner du Tchad lui-même.
Justement, M. Abdallah, avec la crise politique interne et le conflit au nord avec les rebelles du FRAC, est-ce que le retrait des troupes tchadiennes des théâtres d'opération du Sahel est envisageable?
Écoutez, je vois que vous mentionnez la situation intérieure et la frontière libyenne. On a pensé aussi à une possible résurgence autour du lac Tchad, de Boko Haram et d'autres mouvements. Tout cela fait que dans le contexte actuel, et pour bien consolider ou renforcer davantage la présence du régime et la préparation des élections, il y aura fatalement un besoin, une demande de plus de forces de sécurité à l'intérieur des frontières nationales, c'est-à-dire au Tchad ou directement liées à la politique tchadienne. Par courtoisie, par décence, c'est difficile du jour au lendemain de retirer les troupes tchadiennes qui sont dans la région des trois frontières autour du Mali, mais je ne vois pas avec le temps cela a duré et c'est très gênant parce que le Mali est en transition aussi.
Et si les troupes tchadiennes venaient à se retirer de cette zone des trois frontières, qui serait là pour combler ce vide?
Bon, on peut espérer, comme on dit, nul n'est indispensable. On peut espérer, on peut penser que les troupes burkinabées, maliennes, nigériennes, qui sont connus traditionnellement, c'est de très bons soldats durant les premières années de l'indépendance et bien avant, pendant la période coloniale, c'était des troupes aguerries. Donc, avec les réformes, l'introduction de plus de mesures transparentes et la satisfaction des besoins minimums des militaires, ce sont ces troupes nationales, plus le Barkhane et les autres, qui vont faire ce travail.
Ahmedou Oud Abdallah, président du think tank Centre 4S, joint à Bruxelles.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le gouvernement camerounais élargit la cible des personnes à vacciner contre le Covid-19. Après avoir reçu près de 600 000 doses de vaccins Sinopharm et AstraZeneca, le programme élargi de vaccination veut désormais faire vacciner au moins 70% de la population cible. Une campagne a été lancée à cet effet cette semaine sur l'ensemble du territoire camerounais. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Dans la localité de Mbankobo, une banlieue de Yaoundé, 1500 doses de vaccins vont être inoculées aux volontaires. Docteur Pierre-François Etemi, directeur de l'hôpital de district de santé de Mbankomo.
Il est question de vacciner trois sites prioritaires, les professionnels de santé, les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux présentant des facteurs de comorbidité.
Les plus jeunes sont également attendus au cours de cette campagne intensive. Il s'agit des personnels de santé de plus de 18 ans, les personnes de plus de 18 ans vivant avec les comorbidités et toute personne âgée de plus de 18 ans. Docteur Andreas Ateka, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination.
Des enseignants, des personnes dans les camps de réfugiés, d'autres personnes comme des forces de défense et de l'ordre. Donc toute personne avait un risque modéré d'être infectée. Ils vont vérifier ceux qui présentent des maladies graves. Peut-être avec une fièvre plus de 39 et plus degrés. Ceux-là ne sont pas sûrement vaccinés à ce moment-là. Pour ceux qui présentent avec une maladie COVID-19 active ou bien qui ont eu un diagnostic posé du COVID-19, les vaccinations seront différées jusqu'à après 6 mois.
Au 26 avril dernier, le vaccin chinois Sinopharm avait déjà été inoculé à 90 071 personnes, alors que 849 personnes se sont fait injecter le vaccin AstraZeneca, soit un total de couverture vaccinale de 0,7% depuis le début de la campagne de vaccination le 12 mars dernier. Un pourcentage assez faible selon les experts. Pour cette nouvelle campagne, le ministère de la Santé publique a associé différents acteurs de la société publique. Docteur Amani Adidja, sous-directeur de la vaccination au ministère de la Santé publique.
Surmonter l'hésitation vaccinale, c'était d'abord un exercice, un débat contradictoire pour écouter le peuple, représenté par le maire de Yaoundé 5, les journalistes chevronnés en matière de la vaccination qui ont essayé également, à partir des preuves scientifiques, porter les preuves que nous sommes transparents, le gouvernement veut le bien de la population.
La nouvelle campagne de vaccination s'étend jusqu'au 2 mai prochain dans 243 centres de vaccination fixes et mobiles. Au cours de cette campagne, les nouvelles cibles volontaires sont également sensibilisées sur la bonne prise des deux doses de vaccin. Professeur Tétanié Okwe, spécialiste des questions de vaccination au Cameroun.
La première dose stimule le système immunitaire. Et lorsqu'on lui donne la deuxième dose, elle stimule encore et permet donc à l'organisme d'être, je dirais, prêt à contrecarrer toute initiative du virus à entrer.
Le Cameroun enregistre 991 décès avec plus de 65 000 personnes infectées au Covid selon les statistiques officielles du 14 avril dernier. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
C'est une lueur d'espoir qui vient du Burkina Faso et qui pourrait sauver toute l'Afrique. Des scientifiques du Burkina et des chercheurs d'Oxford ont mis au point un nouveau vaccin efficace contre le paludisme à 77%. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
S'il est approuvé par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, dans les prochaines années, le vaccin contre le paludisme va s'appeler le R21. Cela fait environ 13 ans que l'équipe de recherche de l'unité clinique de Nanoro au Burkina travaille sur la recherche de ce vaccin. RTSS, c'est le nom du premier vaccin développé par ces chercheurs. Il a donné une efficacité de 39% et est actuellement à la phase de déploiement pilote par l'OMS à travers l'Afrique. C'est à la suite de cela que les chercheurs burkinabés et leurs collègues de l'université d'Oxford ont réussi à modifier la protéine RTSS pour produire le R21, qui est aujourd'hui testé en phase 2 avec une efficacité de 77% sur 450 patients. L'investigateur principal du vaccin accompagné de son équipe a été reçu par le président Roch Kabore.
Il a plu à son excellence, monsieur le président du Faso, de nous recevoir.
Professeur Alidou Tinto.
Cet essai clinique de phase 2, où nous avons démontré pour la première fois qu'il était possible d'atteindre un taux d'efficacité de 75% avec un vaccin contre le paludisme. Nous envisageons initier le processus de phase 3, qui est la prochaine étape qui va nous conduire vers l'enregistrement de ce vaccin dans les 3 années à venir. Et nous allons laisser 2 ans, et pendant ces 2 ans, nous allons suivre les enfants et collecter toutes les informations justement relatives à leur santé afin d'évaluer au bout de 2 ans si nous allons confirmer les résultats que nous avons obtenus dans la phase 2 actuelle.
Le paludisme constitue un problème de santé publique en Afrique. Au Burkina Faso, les chiffres ne sont guère reluisants. Docteur Gauthier Tougri, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Burkina.
Nous avons enregistré plus de 11 millions de cas dans nos formations sanitaires. Nous avions en 2020 une incidence de 527 cas pour 1000 habitants. Et malheureusement, nous avons déploré 3966 décès, soit 10 décès par jour enregistrés au cours de l'année 2020. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, population les plus vulnérables, paient le plus lourd tribut. Notre pays est malheureusement parmi les 11 pays les plus touchés dans le monde.
Le développement de ces vaccins est une fierté pour les acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme.
Si ces résultats se confirment au cours de la phase 3, ce sera un pas de géant.
Professeur Flakoïta, pédiatre au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou.
Le paludisme reste une maladie encore très meurtrière en région africaine. En 2019, sur les 409 000 décès rapportés par l'Organisation mondiale de la santé, 94% se sont produits au niveau de la région Afrique, dont 67% d'enfants.
L'essai clinique de phase 2 de ce vaccin en cours de développement contre le paludisme a commencé en 2018. Les premiers enfants ont été vaccinés en mai 2019, selon les chercheurs. Avec ces résultats, l'équipe va passer à la phase 3, qui va prendre au moins 2 ans. Seul un vaccin permettra dans les prochaines années de venir à bout du paludisme, disent les chercheurs. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Tension à Jérusalem et le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Dans la vieille ville, la police israélienne et les Palestiniens se sont affrontés à plusieurs reprises et à Gaza, les Palestiniens ont tiré des dizaines de roquettes sur Israël, provoquant des frappes aériennes israéliennes. Les tensions se sont accrues pendant le mois de Ramadan et à quelques semaines des élections palestiniennes. Reportage à Jérusalem de Linda Grunstein, récit de Claire Morin-Gibourg.
Les derniers affrontements ont eu lieu à Jérusalem-Est, après que des musulmans ont rompu le jeûne du Ramadan. Ils protestent contre les barricades de la police qui les empêchent de se rassembler à la porte de Damas. Mohamed Abou El-Oumus est un militant palestinien.
En tant que Palestiniens, lorsque nous allons aux prières du soir à la mosquée Al-Aqsa, nous aimons nous reposer sur ces escaliers dans cette zone. Mais l'occupation n'aime pas la présence des Palestiniens dans cette zone. C'est une question de souveraineté.
Depuis, les forces israéliennes ont enlevé ces barricades, une victoire pour les Palestiniens. Dans le même temps, les Palestiniens de Gaza ont tiré des dizaines de roquettes sur le sud d'Israël. En représailles, Israël a lancé des frappes aériennes et a mis en garde contre une réponse plus sévère si les tirs de roquettes continuaient. Le brigadier général Oudi Dekel travaille pour l'Institut d'études sur la sécurité nationale.
Israël peut répondre de nombreuses différentes façons et nous pouvons aussi graduer notre réponse. Je ne parle pas d'une escalade à grande échelle, mais d'une escalade limitée pour attaquer des cibles sensibles du Hamas à l'intérieur de Gaza, chose que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent.
Certains analystes accusent le Hamas d'avoir provoqué les tensions à Jérusalem et à Gaza dans le cadre d'une stratégie visant à accroître leur visibilité avant les élections palestiniennes du mois prochain. Yossi Klein Halevi est auteur du livre « Lettre à mon voisin palestinien ».
Le Hamas cherche un prétexte pour exacerber les tensions car il veut être vu comme le champion des intérêts palestiniens, en particulier dans les conflits liés à Jérusalem et en particulier pendant le Ramadan.
Certains Palestiniens plus modérés rêvent d'une Jérusalem différente. Mohamed Dajani, du centre de réconciliation Wasatia.
Je suis très attristé par ce qui se passe parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas mon Jérusalem. Mon Jérusalem est une ville de paix, la ville de tolérance, la ville de l'acceptation, la ville dans laquelle les trois religions abrahamiques s'attachent, se respectent, se reconnaissent et vivent ensemble.
Mais pour l'instant, cette vision de paix n'est qu'un rêve lointain. Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique,
dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.